All right, bienvenue à Critique Exquise. Cette semaine, on est à Critique en vrac, puis on est accompagné, comme d'habitude, de Tommy Godet. Puis du beau Pascal.
Yeah!
Oh shit! Tabarnak!
On crie tout, puis on
ça va, façon. Ça va faire mal au recording, ça, mon Jérémy.
Quand tu veux y aller fort.
Ouais. Je peux toujours le recommencer.
Non,
mais on va continuer. Puis on est accompagné, bien sûr, de Milan.
Hey, salut!
Sérieux, Milan, ce que je viens de voir, c'est Pascal qui parle trop fort dans un micro. Ben là, c'est la première fois que je fais ça.
Juste parce que j'étais influencé par Mitch Davis.
Oh,
et aussi parce qu'aujourd'hui, on va parler de Quentin Tarantino. C'est quelqu'un qui t'inspire beaucoup d'émotions.
Ouais, qui me rend beaucoup.
Ben oui, parce que Critique en vrac, on parle un petit peu de n'importe quoi. Puis on est un petit peu tous allés voir le nouveau de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Je ne sais pas pourquoi ça s'est appelé comme ça.
Ben parce que c'est un fairy tale. Ben parce que le film, il prend la vraie vie, mais il a changé un peu. Puis en plus, ça finit bien au lieu de finir mal.
C'est déjà un clin d'œil, mettons, au vieux western spaghetti, puis... ces affaires-là, Once Upon a Time.
Ben, ça fait prétentieux.
Moi, je trouve que le feeling qu'un film est prétentieux, ça vient de nous-mêmes, ça vient pas du film en sens. C'est vraiment nous qui assumons qu'un film est prétentieux, puis c'est par rapport à nos connaissances ou qu'est-ce qu'on assume de quelqu'un.
Ben, c'est sûr et certain, mais c'est pour ça que la nominalisation de dire Once Upon a Time. Ça fait comme un petit peu, tu sais, vieux jeu.
En tout cas, c'est pas de la snob. Puis Once Upon a Time in America, mettons que c'est pas mal une autre classe que ça. Mais bon,
c'est ça. Mais bon, nous, on l'a vu, sauf Milan.
Ben oui. Moi, j'étais à Fantasia occupé à regarder d'autres films.
Il n'y a pas grand-chose à gâcher dans ce film-là. Toi, Jérémy, tu penses qu'il y a un gros punch? D'ailleurs, spoilers alert, là,
La plupart du monde parle de la fin. Je ne veux pas spoiler la fin pour Milan, mais Milan, c'est en calice.
Moi, écoute, je connais l'histoire. Je sais comment ça se passe, puis j'ai pas peur de ça.
Ouais, mais ça suit pas l'histoire. C'est ça.
Allez-y.
Il se répète un peu comme Pascal le trouvait avec Inglourious Basterds, puis... où est-ce qu'il change l'histoire de comment c'est arrivé. Fait que la fin d'Inglourious Basterds, ça finit un bain.
En fait, Tarantino, depuis Inglourious Basterds, je pense qu'il y a comme une tangente dans son œuvre de dire « Et si le cinéma pouvait changer l'histoire? » Un peu ça, je pense. Ça résume pas mal ces quatre films.
Ouais, on aime ou non l'idée. Il fait plus des films juste pour lui.
Je pense qu'il a tout le temps fait ça.
Oui, c'est sûr que là, c'est une période... En fait, 1969 aussi, l'action aussi que ça se passe. C'est sûr, il y a eu les trucs de Manson. Mais aussi, c'était peut-être la période de floraison du cinéma américain. Où c'est que pendant en pleine guerre du Vietnam, les mouvements hippies, les mouvements de controverse, contre-culture, tout était là. C'est une période aussi qu'on voyait, on l'a vu la naissance des anti-héros, des Midnight Cowboys, tous des chefs-d'œuvre, tous des super films où c'est que c'est des personnages plus de...
Se sont cristallisés un petit peu à cette époque-là aussi.
Oui, mais c'est aussi une période de contestation, puis aussi une période de dire genre qu'on n'accepte pas les codes d'Hollywood standard, donc on va y aller aussi avec des personnages plus vrais.
Et dans le film, il y a Roman Polanski qui est là pour incarner ça. Avec peut-être sa copine puis tout, là, dans
ben,
le Roman sens
Polanski,
que...
Roman Polanski, il est pas là, c'est quelqu'un qui joue le personnage.
C'est ça, on s'entend, Mais le personnage de Roman Polanski incarne beaucoup ça, par rapport peut-être au personnage de Brad Pitt et de Leonardo, qui eux autres représentent l'ancienne garde, là, tu sais que...
Oui, c'est un peu un hommage à tous ces petits artisans, comparativement, mettons, aux autres qui vivaient plus dans des villas luxueuses, les Polanski et compagnie.
Ben, on s'entend-tu? Parce que toi, Pascal, toi, tu trouves le film totalement overblown.
Mais c'est ça, on a tous les spectrums en ce moment.
On a
Milan qui n'a pas vu le film, donc il n'y a aucune opinion. Pascal qui n'aime pas le film.
Ouais. Ben, il y a des choses que j'aime. Il y a des choses que j'aime, mais je trouve juste que le film, il manque de structure. C'est que le film il est comme plotless pour moi. Là. C'est une série de vignettes. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes.
Ouais, c'est ça. Ouais,
c'est beaucoup trop long, selon moi. T'enlèves 45 minutes, puis le film est aussi pour être meilleur.
Je suis 100% d'accord. Le flashback avec Bruce Lee, j'aurais enlevé ça.
Il y a plein de trucs. Il y a Margot Robbie qui se promène pendant 45 minutes. Qui a encore que l'autre, il filme contre-plongé pour
Moi, la première affaire qu'Andy a dit quand on est sorti du cinéma, c'est... Ah ben, il y a un problème avec les pieds, lui. Puis on voit vraiment plein de pied de toutes les manières. Puis, tu sais, il y a toutes sortes de souliers aussi. À un moment donné, Brad Pitt, son personnage, ben, Brad Pitt porte des mocassins pour aller voir. Puis, tu sais, on les voit vraiment clairement. Puis,
c'est comme,
c'est quoi,
comme Jérémy a dit, c'est comme un fairy tale. Donc, c'est pas vraiment casser le basic pour dire que, tu sais, si tel film est sorti vraiment à telle époque, il mélange un peu les années 60, tout ça, beau. Plus des films qui sont vrais et des films qui sont pas vrais, comme l'autre temps qui s'en va en Italie. Tourner des
plus,
films.
Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance du film. J'ai beaucoup aimé le personnage de Brad Pitt. Je n'avais un petit peu plein le cul de celui de Leonardo qui geignait tout le temps. Je comprends que c'est un petit peu comme le même personnage, mais les deux côtés du même personnage.
Ouais, mais c'est en un, il est devant l'écran, puis lui, c'est il veut. Ça. Il lui, c'est la vedette. Ouais. L'autre, il est dans l'ombre.
C'est ça, mais c'est l'autre qui est efficace, puis l'autre qui est perdu. Tu sais, ouais. C'est un petit peu la même personne, mais deux facettes de la même personne. Ouais. Puis ce que j'ai trouvé, j'ai oublié mon point. Vas-y, Jérémy.
Bon, on peut faire des points positifs, des points négatifs. Là, comme ça, on
a l'ambiance. Une
structure que le film manque, comme vous
je dirais. Puis là, j'étais pour dire après, la trame sonore, d'habitude, moi, je trouve que Quentin est beaucoup meilleur que ça dans de la manière qu'il utilise la trame sonore. Je l'ai trouvé moins efficace que dans beaucoup d'autres films.
Je suis d'accord avec ça.
C'est plus restreint. C'est son film, mettons, le plus restreint depuis Jackie Brown.
Ouais. Ouais. Si je peux prendre ce que Pascal a dit, ce que je vais dire, moi, j'ai aimé le film, mais je trouve que c'est le film le moins Quentin qu'il y a. C'est le film où il perd son identité, où que ça vient un film que ça aurait pu être réalisé par presque n'importe qui, à part la fin. C'est comme c'est la fin que tu dis, ça c'est un film de Quentin.
Toi, la fin, tu parles quand que les hippies arrivent.
Les hippies arrivent. Le dernier 20 minutes, whatever. Ouais, ouais.
Le plan des hippies est déjà scrappé quand que l'autre il sort avec sa cigarette de dope. Puis,
Mais le reste, comme c'est très. Il n'y a pas les scènes de dialogue forts qu'il y a d'habitude ou les moments de tension entre deux personnages.
Il y a peut-être juste le petit moment magique un peu avec la petite fille.
Ouais, là, avec la petite fille.
Puis, que tu peux retrouver.
Ça, c'était hot. Ça, c'était hot parce qu'aussi, on voyait comme. Les deux côtés, là, le film devenait méta parce que t'entendais un réalisateur parler à un acteur pendant le film. Là. En tout cas, c'était ça, j'ai trouvé ça intéressant. Ces bouts-là, je n'aurais pris plus. Les décors étaient beaux aussi. Puis, c'était l'époque aussi où justement le vieux Hollywood qui fait des films de western se frottait avec le nouveau Hollywood qui veut faire des shows de flics qui habitent dans la ville. Là, tu sais, puis j'ai trouvé que c'était le parallèle était bien entre les deux. Puis la petite fille, c'est de valeur qu'elle soit pas revenue plus tard à rigueur. Là, que...
Ben, c'est parce que c'est ça, le film est tellement une série de vignettes, anecdotes.
Ben, c'est une tranche de vie. Là,
ça aurait pu durer plus longtemps. La seule affaire que j'avais peur dans le trailer puis qu'il a évité, c'est un peu, il disait « In Hollywood, everything is connected ». Je me suis dit, s'il essaie de mettre toutes des connexions partout, là, ça va être tellement artificiel que ça ne marchera pas. Mais heureusement, il évite un peu ce truc-là. Il y a des choses qui se recoupent, mais c'est plus centré sur quelques personnages.
La coïncidence qu'il croise deux, trois fois la même hippie, puis que là, il va l'amener chez eux. Puis ça donne que le propriétaire du ranch, c'est quelqu'un que lui, il connaissait, puis tout. Ça lui a permis de... Ça, c'était
oui, le propriétaire, c'est censé être Burt Reynolds, c'est son dernier rôle.
Ouais,
c'est ça, c'était supposé être ça. Il y a une couple d'autres affaires aussi qui, en tout cas, qu'on
c'est
a.
C'est capoté.
Fait que là, je sais pas trop. J'imagine qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été enlevées au montage. J'ai beaucoup de trucs.
Oui, il a filmé beaucoup. Il y a Tim Roth qui a été coupé. C'était écrit d'un crédit. Ils ont au moins.
Ouais.
Au moins, ça, c'est cool. Il y a plein de monde qui font pas ça, mais c'est écrit Tim Roth puis cut. C'est écrit cut en parenthèse. Ça, c'est nice. J'aimerais ça que le monde fasse
ben ça. C'est quand même aussi une bonne manière de dire vous allez avoir la version de 4 heures plus tard.
En plus, il a parlé de ça. Mais en même temps, c'est comme au moins ça donne. Tu sais, ça dit que l'acteur faisait partie de ça.
Oui, je comprends.
Comme il a travaillé sur le film, mais il n'y a pas.
On respecte le travail du gars. Il y en a d'autres qui coupent et qu'on entend pas mal moins parler, effectivement. Ouais. Toi, c'est quoi que tu as le plus aimé là-dedans?
Les choses que j'ai aimées. Les sets, tout le fait qu'on en retourne dans les années 60, que tous les moments où que Brad Pitt drive, on dirait vraiment qu'on se trouve dans ce temps-là. Ça, c'est vraiment cool. Le fait que le film prend son temps, parce que comme récemment, les films qu'on a hollywoodiens sont atroces. Puis là, c'est juste le fun d'écouter un film qui est un film, qui a un style, qui a une identité, qui est fait par quelqu'un qui a des compétences. C'est juste une grosse... c'est une transition avec qu'est-ce que j'écoutais avant au cinéma.
Mais c'est ça qui arrive avec Tarantino, c'est que moi, je trouve qu'il est un peu overblown pour l'histoire. C'est qu'il est comme dans une période aussi que les artisans sont tellement médiocres que si, mettons, il faisait ces films-là dans les années 70, avec, oui, toutes, les, avec, ouais, tous les grands artisans qu'il y avait là, il passerait plus dans le bar. Alors que là, il détonne un peu quand même, mais ça, on du peut paysage. Dire ça pour ça. Tout le monde. Oui, peut-être.
Ben,
mais
tu vois, en fait, c'est une réflexion sur le cinéma lui-même, ouais, plus que sur Tarantino, peut-être.
Ben, ouais, je peut-être pense que c'est vraiment...
Ben, c'est sûr, c'est très nostalgique aussi d'une période révolue.
Moi, ce que il faut aussi remarquer que c'est le premier film de Tarantino qui n'est pas produit par Weinstein, la, ouais, Miramax ou...
Weinstein!
Oui, c'est ça, les affiliés de... Je n'ai pas l'impression que ça a paru au final.
Non, il y avait mis plus d'argent.
Ouais, c'est ça. Je pense que, en fait, c'est Quentin a vraiment magasiné longtemps la compagnie de distribution qu'il était pour avoir parce qu'il savait que c'était pour passer.
Ben, il savait que, ouais, je laissais désirer, fait que là, il y a comme plusieurs compagnies qui l'ont approché.
C'est ça qui a fait que le film. Parce que moi, indépendamment du reste, la réception du film, j'ai jamais vu ça ever pour un long métrage. Il en parlait à choix FM Radio X, il en parlait à Radio-Canada. Tout le monde a encensé ce film-là partout. J'ai pas compris pourquoi. C'est peut-être la chose que je trouve le plus mystérieux à propos du film.
Moi, mais pourtant, il y a eu des critiques négatives. J'en ai lu dans Variety, dans le Hollywood Reporter. Mais peut-être pas ici, parce qu'ici, ils connaissent rien, puis c'est Tarantino. on dit qu'on aime ça.
Je suis un peu d'accord avec toi.
On est comme obligé d'aimer ça.
Là. Ouais, ouais. Ben, je suis d'accord avec toi quand même. Là. Mais effectivement, que quand même, en 2019, puis en fait, dans les 10 dernières années, on laisse place un peu à... Au journalisme de films, il y en a beaucoup moins d'activement. On parle moins de films, j'ai l'impression.
Ben, c'est des journalistes culturels qui deviennent par la bande.
Ouais, c'est ça. Ils parlent d'Éric Lapointe, Céline Dion, le dernier Rambo, puis les fleurs qui ont mangé à midi, là, en effet.
On résume le truc de presse aussi, là. Le press kit qu'on nous donne, puis on va chercher les grosses lignes là-dedans, puis c'est tout. Là.
Ouais, c'est ça qui arrive. C'est, on parle de tout maintenant, et comme GameSpot. C'est un site web de nouvelles de jeux vidéo, mais maintenant, ils font des fois, ils mettent des nouvelles de films parce qu'ils ont plus rien à poster, puis c'est genre, mais non, c'est pas ça que vous faites à la base. Ouais.
C'est comme si la pop culture était tout en train de se mélanger, là, que le film, c'est un petit peu la même affaire que la BD, qui va être un petit peu l'inspiration du jeu vidéo, puis là,
la ça devient sonore, une carte à
collection. C'est tout des trucs qui, en bout de ligne, font juste... René, la grosse argent, là, on s'entend.
Oui, puis diluer un peu le contenu, on s'entend.
Ben
oui,
parce que c'est ça qui est important, je pense.
La grosse
parce
argent.
Que là, on parle d'un film.
On dilue le contenu aussi, mais on s'arrange aussi pour prendre de moins en moins de risques, pour plaire aux gens. T'sais, comme le dernier Halloween, c'est un peu ça.
C'est
même
sûr,
si j'ai quand même trouvé ça cool. Mais
ben moi aussi.
C'est
ben
plein de choses comme ça.
Les films masters sont plus faits pour plaire, sont faits pour ne pas déplaire.
Ouais.
C'est vraiment pas la même affaire, c'est pas la même optique. On va-tu avoir un spin-off? Il va-tu avoir d'autres affaires par rapport? Parce que si on s'est bien écouté, je pense qu'on est un petit peu d'accord pour dire que l'univers dépeint dans le dernier de Tarantino, c'est dense. T'sais, on s'y croit facilement. C'est une ambiance qui est assez bien prenante. Mais est-ce que c'est la fin de cet univers-là?
Ben oui. C'est
il
nostalgique d'une période révolue. Puis cette période-là, elle reviendra pas. Là.
Okay.
Moi, ce que je fais juste dire aux gens qui ont vraiment trippé là-dessus, c'est... regarder des films des années début des années 70 ou la période que je disais du Vietnam 67 jusqu'à Rocky. Là,
ouais, mais y a plein
c'est vraiment
de
la période.
Ils ont vu quand même ces films-là puis qu'ils vont trouver ça bon pareil. Là, c'est quand même...
Oui, mais je veux dire, ils ne trouveront peut-être pas ça aussi génial. Là.
Toi, ce que tu veux dire, c'est, mettons, tant qu'à triper sur l'hommage à aller voir l'original, mettons.
Ben oui, parce que moi, je trouve que quand même les personnages dans ces films-là sont plus développé que dans le dernier Tarantino.
Ouais, ça, c'est un de mes points. Si on parle de points faibles du film, moi, mes points faibles, c'est que je trouve que les personnages sont vraiment pas développés, contrairement à ces autres films, où ce que je connais vraiment juste une facette de eux. Brad Pitt, il est vraiment excellent, je trouve, avec son chien.
Et c'est un des seuls personnages qui... Ben, je veux dire, il y a Leonardo aussi, mais sinon, tous les autres personnages, c'est des vraies personnes. Fait que c'est un petit peu cheapette de prendre pour acquis qu'on est supposé savoir c'est qui Roman Polanski pour quand on le voit dans le film.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, DiCaprio, oui, son personnage est plus développé, mais en même temps, c'est comme un peu comme... Tu l'as vu souvent, les acteurs... Ouais, mais tu l'as vu souvent quand même des histoires de struggle d'acteurs puis qu'ils n'ont pas confiance en eux autres.
C'est une ancienne vedette qui est en train de perdre ses étoiles.
C'est ça, c'est le déchu.
Mais c'est juste ce qui est.
Ben, il est trop, en plus.
Il est juste ça.
Ça me tape.
C'est juste un ancien vedette. Puis là, il change. Comme il vient correct, dès qu'une petite fille dit
ouais.
Hey, t'es bon acteur, il pleure. Le conflit est fini. Il est correct après.
Il juste d'avoir un petit reboot de confiance.
On voit pas comment il se sent pour vrai. On voit pas de scène comme intérieure où c'est comme genre fuck, j'ai des problèmes.
Non, parce qu'il est trop intéressé au personnage de Margot Robbie.
Margot Robbie, elle a rien à travailler avec. Elle fait juste regarder.
Des films. Les films qu'elle a joué dedans dans des petits films à petit budget un peu.
Oui, c'était un petit peu ça la joke aussi, je pense. Ouais. Là.
Parce qu'il y avait comme quand il était à Cannes ou whatever, là, où que Quentin se fait demander une question par une femme, où elle a dit genre pourquoi Margot Robbie, elle a pas de dialogue, puis là il dit I reject your hypotheses. C'est le mec qui a répondu à la fille. Puis j'étais comme, ah, c'est sûrement parce que les journalistes exagèrent. Mais en écoutant le film, c'est comme Margot Robbie, elle a le troisième nom, elle est là super souvent. Puis c'est un peu à propos de Sharon Tate, mais elle a comme vraiment pas de dialogue.
Elle sert à rien.
Puis elle fait juste faire des faces. Puis il y a plein de monde qui dit qu'elle est bonne actrice, mais comme. Là, je peux pas dire ça, comme.
Elle fait des faces au cinéma.
Quand elle va au cinéma, puis qu'elle demande de rentrer gratis, là, puis le bout de la photo, c'était.
Ouais, c'est moi.
Puis là,
c'est
on, moi. On voit ses pieds en gros plan pendant 30 secondes.
Ça, c'est pas.
Oh là 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 là.
Mais bref, je pense qu'on s'éternise.
Les plans forts.
Je veux parler de Bruce.
Ah oui.
Oui, la scène de Bruce Lee. Je voulais justement qu'on fasse peut-être plus.
D'accord, je pense qu'on
scène par scène.
Que Bruce Lee, je trouve que la scène, j'en avais déjà entendu parler que des gens disaient que c'était une scène un peu inconfortable, que c'est pas raciste, mais presque, que la façon qui est portrayed.
Ouais, qui est comme arrogant.
Il a le droit de montrer un imbécile. Ouais. Mais dans le film, Bruce Lee, c'est un arrogant.
Mais
imbécile.
La raison que le monde y trouvait raciste, c'est que la façon qu'il est portrayed, c'est comme comment que les Asiatiques étaient portrayed dans ces vieux films-là aussi.
Ah, oh, ben là, donnez-nous une petite chance.
Il est une joke. Il est là pour faire une joke.
Je comprends.
Mais il est une vraie personne qui est aimée de tous.
Ouais, je comprends.
À cause qu'il est asiatique, il a dû travailler plus fort que les hommes blancs à ce moment-là pour avoir l'image.
Mais aussi, moi, j'ai toujours prétendu que Bruce Lee, s'il a pogné autant mondialement et surtout aux États-Unis aussi, c'est parce que c'était pas un Asiatique à 100%. Là.
Sinon, c'est sûr que d'être 50-50, ça l'a beaucoup aidé. Même chose pour Shokozugi. C'est le ninja qui a pris d'assaut le cinéma dans les années 80 parce qu'il était à 50% américain. C'est pas mal sûr et certain.
Même s'il parlait tout croche.
Puis je veux dire, ça fait juste rajouter à ton point que peut-être justement, il y a un petit fond de racisme dans cette scène-là.
Mais là, la façon qu'il est joué, puis je trouve. Mais qu'est-ce qui m'a rendu inconfortable, c'est surtout la réaction aux gens. Puis là, c'est là qu'il m'a rappelé le vieux temps, genre. En fait, ça m'a rappelé Dragon de Bruce Lee Story.
Ouais.
Quand il va au cinéma avec sa femme, puis il écoute le film de Charlie Chan, puis tout le monde rit, puis lui est extrêmement inconfortable, puis il comprend pas pourquoi les gens
rient. Ouais.
Puis c'était la même scène où c'que, quand Bruce Lee est dans la scène, puis il fait wow, c'est wild. Mais là, ils sont vraiment exagérés.
Ouais, c'est ça.
C'est vraiment cartoon. Puis comme je pensais pas que tu pouvais plus exagérer ces cris-là, tu sais. C'est déjà comme quelque chose d'intense qu'il fait.
C'est parce que cette scène-là, on dirait qu'elle sort d'une parodie. Là.
Oui, c'est ça. Ça file comme une Bruce Lee parodie.
Ouais.
Mais c'est que tout le monde riait de Bruce Lee dans le cinéma. Tout le monde riait quand il faisait
moi aussi, moi je l'ai vu même dans le visionnement de presse, puis il y a eu beaucoup de réactions, puis on partait à rire. Là,
pourquoi c'est drôle quand il fait ses cris, comme? Pourquoi il fait ses cris exagérés?
Il y a l'air d'un elfe, je sais pas. C'est une bonne question. Mais c'est vrai que c'était inapproprié aussi, ça devient une caricature, puis c'est probablement là qu'elle est la plus grosse, la caricature.
C'est correct. J'étais comme assez fictif, comme c'est ça le point. C'est pour montrer que Brad Pitt, son personnage, est super powerful, comme. Mais c'est que, comme là, il a pris Bruce Lee, qui est quelqu'un d'aimé, genre, puis il l'a ridiculisé.
Ben, il lui a fait faire péter à gueule par un homme blanc quelconque.
Oui, c'est ça. Ouais. Mais par contre, Roman Polanski paraît super bien dans le film, qui a déjà, comme, tu sais, on sait tout qu'est-ce qu'il a fait.
Ben, bon, tu sais pas.
Couché avec moi.
on n'est pas sûr.
Il peut plus aller au States, ça, tu
sais. Ouais, il a avoué son crime, là, après.
Mais il peut quand même plus venir ici, puis that's it. Puis Walt Disney et tout, idéalisé.
Effectivement.
Ouais, mais en même temps, c'est d'époque.
Oui, mais c'est ça.
Fait que, tu sais, le monde, parlant de racisme, mettons, pour Bruce Lee, c'était comme ça que c'était dans ce temps-là. Fait que faut, je pense qu'il faut
raciste,
qu'on...
Le racisme, c'est pas d'enceinte, c'est le racisme vient de comment que la
société... Ouais,
c'est comme comment que Bruce Lee t'interprète. C'est pas comment que les gens dans le film...
Parce que dans la scène, tout le monde respecte l'opinion de Bruce Lee, puis tout le monde fait « Wow! » Sauf le personnage de Brad Pitt, qui est même pas quelqu'un qui existe pour vrai.
Ouais, ouais.
Fait qu'il a comme créé un homme de paille pour venir apprendre à vivre à l'Asiatique qui était comme peut-être en train de prendre trop de place. J'ai pas senti que c'était autant raciste que autant peut-être un out of character, parce que la manière qu'on connaît Quentin Tarantino, il aime bien gros les films de Kung Fu. Je suis sûr qu'il connaît beaucoup des films de Bruce Lee par cœur. J'ai pas compris pourquoi. C'était-tu comme de donner du vintage au personnage de Bruce Lee, de Brad Pitt? Il s'appelle comment déjà? Boots, machin?
Rick Dalton.
Il y a un nom vraiment Boot Gibbs, genre, je m'en rappelle pas, mais il y a un nom quand même winner.
Ouais.
Et c'était une manière de comme prendre du vintage de l'un pour en donner plus à ce personnage-là, je pense.
Mais c'est juste après Quentin défendait son opinion là-dessus, sur les gens l'enfonter comme la famille.
Puis c'est weird aussi, c'est très Tarantino, parce que il y a ce flashback-là, tu sais, raconter des affaires qu'on comprend après. Moi, j'aime ça, cette idée-là de briser la chronologie pour raconter des affaires. Moi, quand c'est bien fait, c'est bien fait. Là, c'était bien fait. Tarantino, il est super bon pour faire ça.
Ouais.
Et là, tu sais, le gars qui a pété à gueule à Bruce Lee, il y a ce flashback-là pendant qu'il est en train de réparer une antenne de TV sur un top de maison. Ouais. J'ai trouvé que c'était cool, ça. Ouais. Ça.
Mais c'est ça, pour moi, c'est pas le problème. Moi, je trouve que le gars pourrait péter Bruce Lee dans l'histoire, parce que si c'est un vétéran de la guerre du Vietnam... Ouais, dans ma tête, Bruce Lee pourrait perdre. Bruce Lee, c'est un martial artist, puis c'est un acteur. Comme c'est un mes idoles, puis il est super powerful, mais comme non, il y a un autre gars qui a tué du monde pour vrai. Comme il pourrait gagner. Fait que, le problème, c'est vraiment comment Bruce Lee est exagéré, puis qu'il était super cocky, qu'il peut battre Muhammad Ali.
Ouais, ouais.
Puis là, après ça, Quentin qui dit qu'il a dit ça en vraie vie, puis après ça, tu vois. Il dit qu'il a pris ça de la biographie de Bruce Lee, puis là, tu volais la biographie de Bruce Lee. Puis c'est pas Bruce Lee qui a dit ça, c'est un journaliste qui dit ça à la femme de Bruce Lee.
Oh, shit!
Puis là, ça vient comme genre plein de layers de merde.
Ouais, mais là, ça, Tarantino, il fait un petit peu son Michael Moore, là. Il sort des
facts.
Des quotes, puis des facts qui n'existent pas, là. Fait que
oui,
c'est
triste.
Ben, en fait, faudrait que je voie le film,
le monde, il parlait de ça, puis j'étais comme, le monde, moi, j'ai jamais été offended par rien de ma vie, genre. Comme tu
parles
de tout. Là.
Ouais, oui.
Puis là, c'est la première fois que je me fais sentiment, mais je pense que c'est vraiment à cause que le monde riait. Si j'aurais écouté chez nous, j'aurais pas eu ce feeling. Là.
Ouais, ouais, ouais.
J'aurais fait comme whatever. Puis, no matter what, moi, j'aime le film. Là. C'est juste un moment awkward.
Sinon, une autre bonne scène dans le film, la fin, c'est sûr, c'est cool, mais j'ai trouvé. J'ai vraiment ri et j'étais le seul dans le cinéma. J'ai trouvé ça vraiment niaiseux quand je l'ai vu sortir le lance-flamme pour torcher la fille dans la piscine. J'ai fait « Pourquoi tu te baisses pas, madame? »
Ouais, dans la piscine, tabarnak.
Puis elle saute sur place, puis là, elle passe au feu au complet.
Mais comme ça s'est fait casser le nez, puis là, elle est rendue.
Ouais, c'est ça.
Ah, le fameux nez.
Rien faire. Ouais. J'ai beaucoup aimé aussi le concept, vous allez me reconnaître là-dedans, c'est un film de chien.
Ouais.
Le chien est vraiment great.
En même temps, toute cette scène-là, il était pas obligé de la faire. Il a fait parce que c'est Quentin Tarantino et il veut plaire à ses fans.
Ouais, mais t'as un beau build-up avec la cigarette qui rend gelé. Lui, il sait pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe.
Il va quand même au ranch avant. Avec...
Mais moi, je trouve que effectivement c'est... si dans Inglourious Basterds, le fait qu'ils vont tuer Hitler puis ils changent d'histoire, mettons, là, que c'est comme un univers parallèle puis tout, c'était comme rendu une joke, là. T'sais, c'était 11 gars qui étaient meilleurs que l'armée américaine au complet. Genre, t'sais, c'était rendu une parodie. Là. Ouais. Mais j'ai trouvé que dans ce film-là, la finale, c'était trop téléphoné. Dès qu'on les voit au début, t'sais, dès qu'ils nous callent que c'est ça, puis t'sais, j'ai trouvé que c'était vraiment trop téléphoné. Je dirais aussi, ce qui m'a tapé ses nerfs, c'était l'épilogue après, là, quand il nous dit qu'il est allé faire des films en Italie, puis qu'il revient... Ah non, ça, c'était même avant.
Moi, je dis que la dernière scène vient un peu racheter le carnage avant obligatoire qu'il fait. Là, parce que c'est là qu'il résume son film. Mais si le cinéma pouvait changer le cours de l'histoire, puis que les autres se prennent par la main, puis ils rentrent. Ça, je trouve que ça vient comme un peu boucler la boucle de qu'est-ce qui a déjà commencé depuis Inglourious Basterds.
Pis sinon, ben, c'est un film avec les usuelles métaphores un petit peu Quentin Tarantinesque, là, dans le sens que la maison de Roman Polanski qui est en train de monter Hollywood est plus haute que... Tu sais, il faut passer comme par la cour de la maison de Leonardo DiCaprio pour se rendre aux voisins d'en haut. J'ai trouvé ça hot aussi que les voisins d'en bas, ben, que ceux d'en haut, ils savaient même pas que c'était lui qui habitait là, puis c'était des fans dans le fond, puis c'était juste de montrer le manque de communication, puis l'illusion aussi entre les étapes de la célébrité, puis ces affaires-là, j'ai trouvé que c'était assez bien monté. Moi, je le conseille quand même. J'ai pas hâte de le revoir, mais j'ai plus hâte de le revoir que Hateful Eight, que j'ai vu une fois, puis que j'ai trouvé... C'était correct, là. C'était... Sinon, j'ai vu Inglourious Basterds, je l'ai vu une fois, jadis. Peut-être lui, ça me tenterait plus de le revoir, parce que ça fait comme comic book. Il y a beaucoup d'action aussi, si je me souviens bien.
Ouais.
Sinon, Kill Bill 1 puis 2, ça m'intéresse absolument plus. D'ailleurs, à la fin de Kill Bill 2, là, tu sais, hey, le punch là, de voyons, j'ai oublié son nom. David Carradine qui dit que... Clark Kent, il se déguise en journaliste faible, blabla, et c'est sa vision de l'humanité. Là. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça niaiseux.
Ben, ça consiste à l'interprétation de Quentin.
Superman, ce qu'il veut, c'est pas se faire découvrir. Fait que c'est normal qu'il prenne le rôle de quelqu'un qui est le contraire de Superman.
Ouais.
Tu sais, c'est pas une critique de l'humanité.
Superman, il n'est pas censé être cynique.
C'est ça.
Quentin l'est. Fait que là, c'est là, il se met lui-même dans le personnage.
En tout cas, ben, moi, j'ai trouvé que c'était pas une bonne approche de la patente. Puis, si David Carradine avait été là, j'y aurais dit. Check Bill.
Mais
check
Bill. À part d'être la nostalgie sur un certain type de cinéma ou sur le cinéma en général et de parler de culture populaire, Quentin Tarantino n'a strictement rien à dire dans la vraie vie, selon moi. Là. T'écoutes tous ses films, puis il n'y a rien à dire, ce gars-là, là, à part de parler, de faire des références à la culture populaire, la culture pop.
C'est de réparer l'histoire, mais c'est pas vraiment quelque chose à dire.
Ouais, ben,
moi, t'as pas besoin d'avoir un mouvement politique ou d'avoir de quoi à dire pour faire un bon film. C'est...
Mais qu'est-ce que tu veux dire, toi? Il n'y a rien à dire par rapport à ce que lui a dit.
Non, mais je veux dire, ces films sont là, puis c'est tout. Là. Essaye pas de trouver des métaphores, ben, à part les trucs méta de films, là, mais je veux dire, essaye pas de trouver des couches de lecture.
Une morale. Toi, tu parles peut-être d'une morale.
Ouais, c'est vrai. Ça non, représente jamais plus que qu'est-ce que c'est.
Oui, c'est ça. Mais mettons, moi, je fais référence au Parasite que j'ai vu récemment, que tu peux voir le film sur plusieurs couches de lecture.
Ouais.
C'est un film qui est vraiment beaucoup plus intelligent, mettons, que l'autre. Oui. Mais bon.
Francis Ford Coppola aussi, il est excellent pour ajouter des niveaux de lecture
dans
ses films.
Il a déjà été bon.
Oui, mais Francis il fait plus Coppola. Rien.
Ben, ça fait longtemps. Il s'est tué avec Apocalypse Now, ça l'a détruit complètement. Là. Il a failli perdre la tête.
Et
ça,
c'était un des meilleurs films de toute l'existence,
oui,
Apocalypse Now, si vous ne l'avez jamais vu.
Regardez-le.
Faites-vous ça. Moi, je pense que j'ai fini avec Inglourious Basterds 2. C'est pas notre time in Hollywood. Toi, Jérémy?
Ben, je voulais conseiller des films. Là, Pascal vient juste de le nommer Parasite.
La Palme d'Or à Cannes.
Ouais.
Ah bon, réalisateur
de Snowpiercer.
De cette année?
Oui.
Ouais. Okay.
Le réalisateur de Tarantino. Snowpiercer, ça, ouais. Ça en a un autre à voir. Ça, c'est très bon.
Oui, Memories of Murder qui est extraordinaire, qui est un des meilleurs films coréens de ever. Mother, qui est excellent aussi. Puis, bref, c'est un très bon cinéaste. Ouais. Le seul bémol qu'il a eu, c'est son expérience avec Netflix et Okja, selon moi.
Plein de monde l'adore.
Que je comprends pas trop. Moi, c'est trop cute à mon goût, mais bon.
Okja,
avec l'espèce de porcelain
mutant.
C'est
comme un genre d'hippopotame, presque.
Ouais. Mélange d'hippopotame et de porc.
Puis c'est comme très...
J'ai pas vu ça.
Les animaux, là.
Moi non plus. C'est très cute.
C'est manipulateur.
C'est très cute, très manipulateur. Les personnages tirés à gros traits, il n'y avait rien de
vraiment
subtil.
Mais c'était aimé.
Mais c'est un film qui était...
Mais là, on parle d'un bémol de ce réalisateur-là.
Ouais, c'est ça.
Ouais, mais là, il est retourné. Mais là, il est retourné en Corée. Ouais, pour faire...
Puis Parasite, je trouve que c'est un masterpiece. C'est un 10 sur 10. C'est rare.
C'est un film coréen, donc.
Ouais. de lui, là, de Bong Joon-ho.
Tu m'enverras ça, mon Jérémy. Ouais. Sinon, ça sort au cinéma au mois d'octobre.
Oui, je pense que ben, y a un distributeur ici. Je pense que la première va avoir lieu au Festival du Nouveau Cinéma. Ah, puis ensuite, il sort en salle. Fait que c'est sûr que le film va quand même être plus médiatisé dans les prochains mois.
Et voilà, bon, tenez-vous au courant, Parasite. Moi, je m'en crisse de voir ça sur grand écran. Fait que tu m'enverras ta version.
Ouais, c'est un film
qui vient du club vidéo Internet. ouais. Sinon, peut-être qu'on peut parler de ce qui s'en vient. Avez-vous vu qu'il y avait la Matrice 4?
La quoi?
La Matrice 4.
Je connais pas.
OK, ben, moi... OK, puis là, je suis seul qui va dire ça et ça et tout. Moi, j'ai fucking out, comme... J'ai eu... Dans le temps, c'était arrivé, là, il y avait une rumeur de Matrix 4. Puis j'ai comme tellement été pompé cette journée-là. Parce que, tu sais pourquoi tout le cinéma hollywoodien suck comme pas mal?
Oui.
Puis ça, même si c'est mauvais, même si c'est mauvais, c'est quand même meilleur que toute la shit que j'ai chaque jour. Calisse. C'est meilleur que tous les fucking Marvel, même quand c'est mauvais. Genre, parce qu'au moins, il y a une voix unique dedans. Il essaie de faire de quoi de différent. On dirait pas que c'est contrôlé par un studio. On dirait pas qu'ils ont fait de quoi pour être populaire. Comme Ant's Matrix 3, c'est un huge flop.
Oui, c'était, ouais. Ouais.
Ben moi, j'aime plus le 2 puis le 3 que le premier. Le
ah,
premier.
Ouais? Ah ouais? Holy shit!
Le 3 est insupportable.
Ah ouais, moi aussi, j'ai pas aimé.
Moi, j'aime bien trop long, là, mais j'aime mieux le 3.
Ah, la fin, là, c'est.
Ben ouais, juste la fin est conne, là, il devient Jésus. Écoute.
Non, mais toute la fusillade qu'il y a avant, il n'y a aucune scène de. Keanu Christ dans le film. Ben, rien de bon.
J'aime mieux le 2. En tout cas, ben, le 1, moi, il m'a tapé ses nerfs monstrueusement à l'époque. Il a des grosses faces en gros plan d'un bout à l'autre. Puis il essaie de faire comprendre à quelqu'un qui est un programmeur de génie que toute sa vie, il a passé dans un programme. Ouais. Ça prend 1h20 de Lawrence Fishburne en gros plan avant que le gars comprenne. Est-ce que ça m'a tapé ses nerfs? Est-ce que je te tanné, man? Tu dois comprendre que la réalité est ce que tu en fais. Ben oui, fais-le, man! T'es un programmeur avant. Tu sais, c'est pas comme si tu demandais un fermier, là. T'sais, il faisait ça avant. Fais-le! Pis,
ça prend 2 minutes,
il prend toute la film.
Ça dure 2 minutes.
Non. Il y a 8 rencontres de Lawrence Fishburne en gros plan. Non, merci. Ben, faut dire que je l'ai vu une fois dans le temps.
Ça dure 2 minutes.
Moi, j'étais allé voir des films indiens. Si ben, oui, ben, moi, ben, j'aime ça, aller voir des films indiens. Puis j'en ai vu 2 hier. Justement.
Tu vas les voir où?
Hey, attends un peu. Je finis sa matrice avant.
Non,
moi, à cette époque-là, en plus, je lisais la BD. Je lisais beaucoup de DC Vertigo. Puis la matrice, en fait, c'est tout le concept là, des robots qui utilisent ça. C'est tout volé à une série qui s'appelle The Invisibles de Grant Morrison.
Oh.
Et j'ai trouvé, tu sais, la première fois que j'ai vu la matrice, je me suis fait, voyons, c'est The Invisible. Puis il en fait mention nulle part. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cheapass.
Mais ben, eux autres, ils partageaient le comic durant le set. Quand ils filmaient, puis c'est comme on y a des inspirations là, mais je veux dire, leurs inspirations, ça vient quand même de partout, puis tous les films, tu peux dire ça à propos d'elles.
Ça, c'est pareil.
Pareil.
C'est pas pareil, fuck out.
Ben,
un programme informatique dans lequel tout le monde existe et qui garde tous les humains paralysés dans le vrai. Dans
oui, mais l'exécution, puis comment c'est visuellement, puis après ça, où ça vient, ça, c'est complètement différent. L'autre, c'est des aliens dégueulasses qui arrivent sur la Terre, puis qui mettent une feuille dans leur univers, puis là, elle pense qu'il est comme dans une autre réalité. Mais le concept de la réalité, ça vient quand même de la caverne de Plateau, nanana, puis là, c'est ça, tout, ça vient vraiment. Tout de quelque part avant. Genre, tout est une copie de genre, tu peux
Jérémy
pas
commencer se choque.
Ça, c'était obvious.
Jérémy se choque.
Ben oui, il est con, là, remets ton t-shirt.
Mais l'argument de dire, à cause de cet argument-là,
OK, vas-y, toi.
Moi, c'est ça, j'ai vu des films indiens. Il y en a un que j'avais hâte de voir, c'était Battle House. Qui est quand même assez bien fait. Ça dure 2h25. Puis ceux qui disent que genre... tu sais, genre les films, il y a toujours des chansons puis tout. Mais il n'y en a pas là-dedans.
Il n'y a pas de chansons. Pas une.
Il y a 4 tunes. Mais je veux dire, c'est très bref. Puis c'est les personnages qui... c'est plus fait comme les, leurs émotions.
Il y en a 4.
Oui, je sais, mais je veux dire, c'est pas des numéros de danse. Dans toutes les tunes. Tarantino, le dernier film, il y a plein de tunes. Ben, je veux dire, c'est pas des numéros de danse qui sont associés à des clichés. Il y en a un moment donné, tu dis « Ah, la fille, elle danse dans quelque chose. » Puis au bout de genre la moitié de la tune, ça coupe. Il y a comme un power shutdown. Puis après ça, la fille est kidnappée.
Oh! Kidnapping.
Parce que ça va avec l'histoire, parce que la fille, justement, a dansé là-dessus, puis les autres, ils vont l'utiliser pour aller pogner le méchant. Mais bref, oui, c'est une histoire que je connaissais pas, un gros scandale qu'il y avait eu en 2008, une attaque, après des attaques de Mujahideen méchants de l'Inde qui avaient fait des actes terroristes. Fait qu'ils ont, ils ont fait une attaque dans un Battle House, de là le titre.
C'est quoi,
puis,
ça, exactement?
C'est des jeunes qui ont été tués par la police. Est-ce que c'était un coup monté? C'était pas un coup monté? Puis là, tu peux savoir ça en regardant le film.
T'as-tu vu Super 8? Super 8? Super 30, sorry.
Non.
Le nouveau film de Hrithik.
Non, j'ai pas vu. Mais je sais que j'ai vu la bande-annonce de War. Ça a l'air vraiment malade.
Ouais.
Ça, ça sort au mois d'octobre avec lui. Avec lui puis l'autre. Mais moi, le film qui m'a le plus excité... Ouais, c'est ça. Le film qui m'a le plus excité, c'est Sao, là, qui sort dans... le 30. Ça a l'air complètement fou avec l'acteur de Bahubali 1 et 2. Là. Puis ça a l'air complètement cinglé. Là. La bande-annonce, je te le dis, va regarder le teaser puis tu vas tomber.
Fait que toi, tu essaies de nous amener un petit peu tout le monde vers le cinéma. Indien.
Ben, ça joue au cinéma. Tout le monde se plaint qu'il y a juste des Marvel ou quoi. Si tu veux aller voir des films entertaining, tu y vas le mardi,
c'est,
ça te coûte sa vie assez.
Moi, c'est que les points, je les écoute chez nous.
C'est où que tu vas voir ça?
Ouais, mais
Au forum, il y en a plein.
Ouais, mais tu écoutes chez vous, c'est juste la sélection de Netflix puis les gros, non, les 3-4 films. OK, ouais.
Il veut dire, il est
ouais, mais moi, je trouve que les films indiens, s'il y a un cinéma qui se voit très bien sur grand écran, qui est fait pour voir sur grand écran, c'est le cinéma indien. Parce que c'est rempli de couleurs, c'est rempli de.
Ouais,
de
puis t'es
trucs,
là 3h30.
Ça, c'est plus vrai. Puis après ça, j'ai vu le film Mission Mangal aussi, qui aussi, je connaissais pas sur le projet spatial qu'il y a eu en Inde, qui ont été sur Mars en 2014. Alors, ça montre un peu l'évolution comme ça. C'est un peu feel-good movie à la style Hollywood. Mais les personnages sont cool. Puis en plus, ça peut. De l'équipe de. Aérospatial. Ouais. Là-bas, c'était en majorité, c'était des femmes.
Ah, mais quand ils sont allés sur Mars, ils ne sont pas physiquement allés sur Mars.
Non, ils ne sont pas allés, mais je veux dire, ils ont construit un satellite qui pouvait se rendre sur Mars, alors que la Chine n'avait pas réussi encore, puis les États-Unis, ça leur a pris plusieurs fois.
Puis eux autres,
il y avait des difficultés financières énormes. Genre, même pas le budget de genre le dixième de la NASA, puis ils sont allés c'est ça.
Fait que c'est quand même la NASA, c'est dans vos faces.
Ben, c'est très Hollywood dans le déroulement, mais ça reste quand même.
Trouves-tu que dernièrement, le cinéma international se hollywoodifie beaucoup?
Oui, beaucoup.
Ben c'est
j'ai vu le film asiatique avant The Bravest, son histoire de pompier, ça aussi basé sur une histoire vraie.
Ouais,
courageux et tout.
C'est pour ça que l'Empire américain, ça en est un des plus solides, parce qu'il est culturel à la base, je pense.
Sauf que les gens encouragent beaucoup plus le cinéma là-bas. S'ils voient que, gars, on nous donne les moyens aussi, ils vont encourager beaucoup plus le cinéma local que les autres films. Les 50 blockbusters ici, il y a juste 7 films américains dans les dernières années. Là aussi, qui ont commencé à rentabiliser les chiffres, que ça sort en Chine un peu partout.
Il y a juste 7
films américains sur 50. Donc, il y a quand même 43 films là-bas. Il y a peut-être un film ou deux japonais. Là. Mais c'est quand même, les gens vont voir leur cinéma, vont voir leur acteur. Moi, j'ai vu le film Mission Mangal. Il y avait beaucoup de monde à 9h15. C'était tous des Indiens. Là. J'avoue que ça sentait bizarre.
Des Hindous. Bon,
des Hindous. Donc,
c'est
voilà.
C'est pas la même affaire. Non. C'est pas la même affaire. Toi, Milan, t'as pas parlé beaucoup aujourd'hui.
Ben non, m'avait clôturé dans vos films de Tarantino puis tout. Là. Ben, en fait, c'est drôle parce qu'en m'en venant tantôt avec Jeremy.
Oh mon Dieu.
C'est cher du Mouchel. On parlait de Freaks, qui est un film canadien que j'ai vu à Fantasia, qui va sortir, je crois, au mois de septembre ou octobre. Ouais, septembre? Bon, on me dit septembre. Mon journalisme sur le site me dit septembre, donc ça va être septembre.
Je pense que c'est le 13.
Ah, le 13 septembre, peut-être. Un film canadien filmé à Toronto en entièreté ou presque. C'est un film qui était en avant-première ou en première mondiale, je pense, à Fantasia. Moi, j'ai bien aimé. Florence aussi. Je peux pas trop spoiler, en fait, du film parce que ça vend un peu le punch de l'essence du film.
Fait que Freaks.
Freaks.
Ça a pas rapport avec celui de 1932, que c'est plein de gens...
Non.
De difforme,
non, c'est pas un film d'horreur.
Handicapé de naissance.
C'est pas un film d'horreur, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un film que les Américains font beaucoup dans les 10 dernières années.
OK, ben c'est ça. Mais là, tu veux pas...
Parle dans ton micro.
Radio spoilage,
tu veux pas spoiler, mais il y a un trailer de ce film-là.
Oui, mais ça spoil pas.
Mais c'est à cause, dans le trailer, à cause de moi, je savais rien sur le film, j'avais juste hâte parce que j'aime bien Emile Hirsch,
ouais.
Un gars qui a battu sa...
Ouais, on n'en parlera pas.
Mais je,
ouais, il y a un Christian Slater de lui.
Et voilà.
Ouais. Ça, ça va
voir. Mais il a continué d'acter depuis.
Bref, ouais, mais c'est parce que les films, souvent, t'es signé pour 5-6, c'est pas parce que tu.
Oui, mais ça fait vraiment longtemps de ça. Fait que c'était avant Autopsy of Jane Doe, puis là, depuis, il continue.
Ben, c'est pas une grande galette
aussi. Fait que t'as vu le trailer.
Oui, puis le trailer, ça a l'air d'une affaire de super-héros.
Oui. Mais, ouais, bon, OK. Si vous avez vu le trailer, c'est une affaire de super-héros, mais pas comme Marvel ou DC fait.
Ouais, 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 ouais.
Puis ça change vraiment l'emphase. On passe, tu sais, à un cinéma américain qui est axé, on va dire, sur le CGI, les effets, le gros budget, machin. Mais ça, ça le crisse d'un vidange. Ça met toute l'emphase sur l'histoire et les personnages.
Ça n'a pas d'argent.
Je peux-tu essayer de...
Oui, mais c'est plus intéressant.
Ouais, mais ça peut être fait intelligent aussi.
Ouais. Ben,
ouais,
j'ai aimé ça.
L'argent Super, c'est de loin le meilleur film de James Gunn, tant qu'à moi, mais bon.
C'est vrai que c'est pas mal
ouais,
bon.
Je pense que c'est mon préféré, James Gunn aussi.
Je me souviens pas avoir vu ça.
C'est pas mal bon.
Ouais,
mais ben ça aussi, c'est comme un film de faux film de super-héros parce que c'est plus un film sur l'aliénation urbaine puis la maladie mentale parce que le personnage.
C'est vraiment un film de super-héros.
Ça, j'aimerais pas ça de bon.
Tu vas peut-être aimer ça.
Ouais, tu dis que c'est bon, là, Pascal. Laisse donc la chance.
Vas-y, tout de suite. Super-héros.
Ben oui, mais tu m'en
mets vous. Je disais, il n'y a pas de monde en cap qui se bat.
Non, c'est ça. Il n'y a pas de.
Je vais essayer de deviner. À cause que je pouvais voir ça allait.
Spoiler alert, si vous voulez pas.
Fait que ça a l'air d'être à propos. Fink me dit si j'ai tort.
Ouais.
Ça a l'air d'être une petite fille qui vit avec son père qui est Emil Hirsch.
Oui.
Speed Racer.
Oui.
Puis lui essaye de faire du mieux qu'il peut pour être son père.
Oui.
Mais elle a des superpowers.
Oui.
C'est ça que ça a l'air. Fait que il la garde en quarantine pour la protéger elle, puisque le gouvernement veut l'utiliser. C'est quoi, c'est Kick-Ass,
finalement? Entre autres, mais il y a... En fait, tu regardes le film, puis si tu sais pas que c'est à propos de super-héros, tu penses, OK, son père, c'est genre un bandit. Parce que moi, je suis allé le voir, j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai pas lu c'était quoi, je suis juste allé m'asseoir, j'ai regardé le film.
Okay.
Je pense que c'est la meilleure façon de regarder ce film-là, mais bon, on vit...
Ben, on en fait, la bande-annonce, je sais pas si c'est un spoiler.
Freaks, le 13 septembre.
Ouais, mais là tu.
Mais peut-être c'est ça, c'est qu'ils ont présenté ça plus super-héros dans la bande-annonce pour convaincre
mais
le monde.
Mais ça se peut que c'est pas super-héros dans la bande-annonce, ça se peut que c'est mon interprétation de la bande-annonce.
Super-héros, non, mais ils ont des super-powers, tu sais. Ils ont des pouvoirs. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'au début.
La nuance est le fun.
La nuance est très le fun. Et au début du film, tu penses que son père, c'est genre un voleur de banque parce qu'il y a des passes. Bon, je l'ai dit dans un épisode précédent, mais il y a des passes où il joue au poker avec sa fille, puis il y a genre des millions sur la table. Fait que t'es comme, ah, il a peut-être volé une banque. Puis là, dans le fond, il se cache là parce qu'il est recherché par la police. Puis mais c'est pas ça pantoute.
Mais c'est ça, j'aurais pu imaginer aussi par le trailer que c'est Emil Hirsch, que c'est pas vraiment sa fille, puis lui, il l'a kidnappé, puis il la garde.
Ah!
Ça aurait pu être ça.
Peut-être. Je pense qu'on arrive tranquillement à la fin de l'émission. Vu Assassin.
Oui, moi, je serais...
J'ai beaucoup aimé voir Iko Uwais se battre. Okay.
Quoi?
Le scénario...
Assassins. Avec Iko Uwais qui est sorti sur Netflix.
C'est une série.
C'est 10 épisodes de 45 minutes.
Ouais, avec Iko Uwais puis Marc Dacascos.
Oui.
Marc Dacascos, il joue un monk qui prend possession du corps de Iko Uwais.
Ouais, puis de moins en moins.
C'est vrai, ça va rester là longtemps.
J'ai pas la patience de regarder.
Ah, mais c'est pas bon.
C'est assez décevant.
Mais l'affaire, est-ce que. J'adore Iko Uwais. The Raid, c'est amazing. C'est des masterpieces.
Oui.
Le 2, c'est un des meilleurs films d'action qui existe.
C'est sûr. Meranto aussi, c'est.
Ouais, c'est vraiment bon.
C'est capoté.
Là-dedans, c'est la première fois que ça me tentait moins de voir Iko Uwais qu'une autre personne. Parce que Iko Uwais est possédé par Marc Dacascos. Puis là, je voulais plus voir Marc Dacascos parce que dans le rôle, Marc Dacascos fait plus de sens à cause qu'il joue un chef.
Oui.
Puis Marc Dacascos est plus charismatique qu'Iko Uwais.
Surtout en anglais.
Oui, c'est ça.
Surtout depuis John Wick 3 aussi, peut-être. Ouais. Là, ça l'a remis sa map un peu.
J'ai pas vu.
C'est quoi le dernier film qu'il a fait avant John Wick 3?
Ah non, c'était atroce. J'en avais essayé une coupe, moi, puis c'était...
Ça fait vraiment longtemps. Moi, la dernière fois, j'avais vu Marc Dacascos, qui avait des cheveux, puis c'était un beau gosse. Ouais.
Hey boy, hein?
Puis là, il est rendu comme vieux sage Gordon Liu, mais tu sais...
Il marche.
Oui. J'aime ça le revoir, puis je pense que sa carrière va avoir un autre beau souffle. Il s'est gardé en forme, puis ça paraît, mais Là, en fait, cette série-là, le scénario est vraiment comme louche. C'est plate d'avoir réussi à réunir autant de talents puis avoir essayé de copier la formule Marvel de Netflix là, avec des super pouvoirs. Mais à la base, le concept que lui, il se ramasse l'assassin d'esprit fantôme et qu'il a le pouvoir de 1000 monks. Ça, j'ai trouvé ça cool. Que...
Ben, ça sonne... Iko Uwais se fait posséder par 1000 monks. Puis il y a des pouvoirs de ces 1000 monks-là, c'est les Uwais Assassins. Là, il peut botter des magiciens.
Puis c'est le dernier, en fait, de la lignée.
Ouais. Parce que moi, je me souviens. Toutes les fois qu'il se bat, ben là, il prend la face d'un de ces 1000 monks-là. Fait qu'il y a personne qui peut savoir c'est qui. Parce que
Jackie Chan et Jet Li, c'était mauvais rare, ça, là, le Forbidden Kingdom. Ouais, qui avait des affaires fantastiques.
C'était avec
des monks, ouais, c'est ça.
C'est comme Journey to the West, mais. Mais l'affaire qui est mauvaise avec Uwais Assassins, man, c'est que. D'habitude, les effets spéciaux? Dans ce genre de film-là, attends, juste narrativement,
oui, aussi.
D'habitude, dans ce genre de film-là, t'as un personnage qui sait pas se battre, puis qui est vulnérable. Dans sa vie, il y a de la misère. Fait que là, le personnage de Iko Uwais, c'est un chef. Ça a du sens. C'est un chef, puis là, ça donne qu'il fait partie du triad, il a besoin de se défendre, puis là, il se ferait posséder. Mais non, ils font que c'est Iko Uwais de The Raid. Fait que là, Iko Uwais, c'est déjà se battre au début du film. Fait que quand il se fait posséder par. Marc DeCasco, t'es comme, pourquoi il a besoin d'apprendre plus de kung-fu? Il savait déjà faire du kung-fu. J'ai vu The Raid 1 puis 2.
Ouais.
Ça marche pas.
T'as vu Mal 22, à la limite, même si t'as encore mal à la tête, juste en
pensant. Hey,
comme je pense quelqu'un comme Van Damme, tu sais, comme tu mets ce truc-là puis tu le mets dans les années 90 avec Van Damme est capable de jouer quelqu'un extrêmement vulnérable. Il a ses yeux qui font pitié puis il est capable de faire semblant qu'il est vraiment en poche. Dans plein de ses films, il se fait battre contrairement à Vin Diesel, The Rock, Jason Statham,
Steven Seagal.
Il se fait battre Van Damme, il y a de la misère. Il y a plein de ses films où ce qu'il monte pas, on dirait même pas qu'il sait faire du martial arts. Quand j'étais jeune, j'haïssais ça. J'haïssais ça qu'il donne death, il fait pas de martial arts.
Van Damme, arrête là, lève-toi ici.
C'est
pas vrai que t'as besoin du training du vieux dans le kickboxer pour être capable de te battre contre chose.
Il aurait pu faire de quoi du genre, mettre quelqu'un de mieux qui montre sa vulnérabilité.
Pas parce que Iko Uwais, ses films,
c'est pas un bon acteur premièrement.
Ben surtout pas en anglais là.
Pas en anglais.
Je pense qu'en indonésien ça paraît
mieux que d'autres mondes.
Ouais.
Mais c'est un excellent batteur.
C'est ça.
Je pardonne tout là.
Oui, c'est pas un bon acteur, c'est un bon batteur. Moi ce que j'ai eu de la misère, c'est vraiment le CGI.
Oui.
Calisse. Ouais. Mettez-en pas. Non, mais mettez. Tu peux faire.
Le meilleur acteur des batteurs présentement, même s'il est quand même assez limité, je pense que c'est Scott Adkins.
C'est Scott Adkins en tabarnak. Surtout on a écouté les deux ninjas dernièrement, là. Hey, c'est bon. C'est des films de ninjas.
Dans le dernier, Jesse G, Jesse V que j'adore.
Keanu Reeves. Je sais pas si vous avez vu ça, John Wick.
Je sais pas si Keanu Reeves pourrait faire mal à Scott Adkins.
Mais les films sont meilleurs.
John Wick 3, c'était pas terrible.
Je l'ai même pas vu encore.
John Wick 3, je l'ai aimé, moi, finalement.
John Wick 3, en plus...
C'est le moins bon des trois, mais je l'ai aimé.
Je l'aime plus à cause que j'ai vu plein de films mauvais d'action.
Ben oui.
J'ai vu Optimum Shaw, puis tous les films que j'ai vus avant Optimum Shaw.
Je suis un peu triste que tu m'aies pas attendu, d'ailleurs.
Je sais, je suis vraiment désolé, puis moi tout, je suis triste de ça.
Ouais.
Je voulais vraiment, quand tu me l'as dit, fait que bon, là, je vais me racheter. Next film, tu veux voir, on y va for sure.
C'est bon.
Je pense qu'on va, vous laisser faire du bro love. Je pense qu'on a un show là-dessus.
Mais Tommy.
Oui?
C'est ça.
C'est ça.
Mais moi, je peux parler de. En temps, je peux parler d'Optimum Shaw pendant
On peut en faire un autre.
Non, mais vous avez pas vu Hobbs and Shaw.
Non, j'ai pas vu.
Vous avez-tu vu Hobbs and Shaw?
Non.
Hobbs and Shaw, là, c'est le pire film des Fast and the Furious.
Ben,
vous pensez que le 8, c'est le pire?
Non, mais en fait, ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que chaque film subséquent est le pire film de la série à chaque fois.
Non, parce que comme.
Attends, le 7 est pire que le 6, le 8 est pire que le 7, puis le Hobbs and Shaw est pire que le 8.
OK, mais attends. Le 2 puis le 3, le 1, c'est un des meilleurs. Après ça, le 2, il est drôle. Le 3, il est pas super bon.
Mais tu vois, moi, le 3, c'est mon favori parce que...
C'est le monde de même.
Parce que comme film de... Pas comme Fast and Furious, mais comme film de char... C'est un pas pire film de char.
Je suis d'accord avec toi, mais moi, c'est que j'aime pas le main character dans le film.
Il
est
cavant.
Oui, il est cavant.
Je l'aime pas. Même si je le mets dans American Horror Story.
Faut que ça le fasse dire qu'il va falloir qu'il apprenne à drifter. C'est quoi? Ben là, t'es pas un coureur automobile, c'est pas drifter.
Non, mais moi, c'est même pas le personnage. J'aime pas le acting de ce gars-là.
Non, mais il est pas bon.
Mais American Gothic, c'est un kid dedans, le show produit par Sam Raimi. Vous vous rappelez de ça dans les années 90?
Oui, c'était
un show d'horreur, en tout cas.
T'écoutes des affaires vraiment.
American Gothic, Sam Raimi. Checker ça.
Checker.
C'était un bon show dans le temps. Mais c'était doux. Là, il est devenu ce gars-là de Fast and Furious 3. Fait, mais en tant que film, si c'est, ça fait pas partie.
Si t'enlèves, mettons, correct. Fast and Furious, puis tu fais juste écrire Tokyo Drift.
Oui, c'est bien correct.
C'est un bon film de char parce que des bons films de char, ça n'existe pas.
Check. Moi, je vais te dire.
Ça dépend. Dans les années 70, oui.
Oui, mais mettons, de 95 à aujourd'hui, là, donne-moi un bon film de char, il n'y en a pas gros. Ouais,
Crash de David Cronenberg.
Speed Demon.
Oh my God. De David de Coteau.
Moi, je suis dans le même bateau que toi, quand même. Trois, tu l'aimes bien. Ouais. Moi, j'aime au bout le 4, man. Puis tout le monde l'haït. Je l'aime, le 4.
Je vais être honnête avec vous autres. Je les ai vus au moins quatre fois chaque. Hey, je me souviens pas du 4.
On fera un show là-dessus.
Je vais m'absenter. Moi, j'ai juste vu un film de la série, ça m'intéresse pas. J'ai juste vu le 5. On m'avait dit que c'était tellement bon. J'ai trouvé ça tellement plate. J'ai même pas vu aucun film de la série. Je voulais pas voir les autres films de la série.
Faut que tu regardes. Moins 6, moins 7.
Faut que tu regardes le 1 en français. Faut que tu
te le dis. OK, on va finir là-dessus.
Je peux tout le temps couper ça, puis c'est deux épisodes. Là.
Oh, tabarne. Hey, Jérémy est en feu.
Ça prend la séquence d'intro, Jérémy. Hey, merci beaucoup, Pascal. Ça a été super cool que tu sois là, Jérémy.
Allez voir des films indiens.
Oui, et puis Milan est là, ben oui, hein, un petit peu de culture. Ah. Bollywood est en train de tranquillement prendre une place méritée.
En fait, allez voir des films qui sont pas faits aux États-Unis.
Oui.
Donner la chance au cinéma local, donner la chance au cinéma international.
L'heure de la sortie, un magnifique thriller français que tout le monde devrait aller voir, qui est présentement à l'affiche.
Voilà. Jeune Juliette, un film québécois. Moi, j'ai une grande aversion au cinéma québécois. Oui, écoute, donne-moi deux minutes. Vous avez parlé tout le long de votre film plate de 2h45.
C'est trop long.
C'est correct, mais c'est trop long. Puis la fin, on va botter des culs, ça m'a tapé ses nerfs. Oui. Bon, c'est correct.
Ben oui. Mais moi, j'aime pas les films québécois.
Moi non plus.
J'aime pas la musique québécoise.
Moi non plus.
J'aime pas la culture québécoise.
Moi non plus.
Ça part à moins deux tout le temps.
Moi non.
Puis j'ai aimé ça. Fait qu'aller voir Jeune Juliette. Voilà.
Ah, bon, ben
tu vois?
Voilà.
Tu vois, si tu m'avais laissé 30 secondes.
Jeune Juliette, la suggestion de Milan.
Hey, Camille, tu parles trop, là.
Ouais, là, ça suffit, Tommy.
Merci, Jérémy, de ta présence encore une fois. On peut rappeler à tous nos auditeurs fidèles et gentils que sur notre page Facebook, il y a un bouton qui va vous amener au T-shirt que tu as designé en sang du Christ avec ton propre talent. Achetez-en une coupe, là. Noël s'en vient. Critex, Critique Exquise, on appelle ça Critex entre nous autres parce que ça fait tellement plus hip. On est disponible sur Spotify. Je pense que c'est correct pour cette semaine. Ah, on revient la semaine prochaine avec d'autres magies. Là-dessus, on vous souhaite de la bonne bobine. Merci tout le monde. Bye!
Bye. Bye.